Qu'est-ce que l'écriture nous a apporté? Nous a-t-elle soulagé ou a-t-elle pu parfois nous faire l'effet inverse?
Écrire m'a un peu soulagé parfois, parfois non. L'écriture est pas tant soulageante que ça, dans le sens où, justement, vu que je suis plongé dans mon univers, quoi, ça me met dans tous mes états, quoi. Vraiment, je vis ce que mes personnages vivent, je vis ce que mon univers vit, voilà, je vis à fond ce que j'écris, quoi. Donc c'est pas vraiment une activité relaxante, puisque je me sens complètement investi dedans, quoi. Vraiment, il y a toutes mes émotions, tous mes sentiments qui y passent, puisque c'est ça, l'écriture, c'est d'écrire, en fait, ce qu'on ressent. Donc voilà.
Quand j'écris, ça fait beaucoup de bien. C'est souvent des émotions fortes, donc ça me sert un peu d'exutoire d'écrire. Par contre, à la relecture, bah, c'est plus compliqué. C'est des émotions fortes que je revis. J'ai jamais réussi à relire mes notes, mon écriture sans fondre en larmes. Mais justement, ça m'est déjà arrivé de vouloir retrouver ces émotions et donc de lire mes mots. Écrire, ça n'a pas que des avantages. C'est aussi un peu compliqué. J'ai tendance à pas finir ce que je commence dans la vie, à sauter d'un projet à l'autre. Et donc, c'est un exercice quotidien d'écrire un livre sans pourtant me mettre de pression, parce que c'est absolument pas mon métier, et de garder ça un plaisir.
Écrire me permet de trouver mon propre style, ma propre plume, tout en faisant fonctionner mon imagination. Et oui, cela me soulage. Par exemple, quand je ressens de la tristesse ou de la colère, je préfère décharger mon esprit et les poser sur le papier. Je sais que je me sens beaucoup mieux après. J'ai l'impression d'avoir lâché un poids, et donc d'être plus légère. Je me souviens avoir écrit un poème sur la perte d'un être cher. Étant donné que je ne pouvais pas assister à l'enterrement d'un proche, écrire ce poème m'a permis d'une part à faire mon deuil, mais surtout d'exprimer ce poids qui alourdissait mon cœur et mon esprit. Je me souviens m'être acheté un ou deux journaux intimes à plusieurs reprises, mais je n'ai écrit que quelques pages. Le fait de décrire ce que j'avais vécu au quotidien me faisait revivre deux fois la même journée. Ce n'était pas spécialement agréable, car j'avais besoin de faire fonctionner mon imagination et de voyager avec celle-ci.
Comme je le disais, c'était un échappatoire pour moi, donc ça m'a apporté énormément de réconfort dans une période où je pense que je souffrais beaucoup et que j'avais pas vraiment de moyens d'extérioriser toute cette négativité. Et la musique, c'était une certaine manière non seulement de l'exprimer et de l'expier, en fait, cette négativité, mais aussi simplement de mettre mon attention et mon temps sur quelque chose qui me faisait vibrer et qui me plaisait vraiment. Donc non, c'était que du positif. Voilà.
Donc écrire m'a permis en fait de penser mes plaies au fur et à mesure, de me faire confiance petit à petit et de prendre la vie autrement, de m'aider à l'affronter par moments, surtout quand elle était difficile. Du coup, à l'âge de 21 ans, j'ai sérieusement repris l'écriture d'un livre que j'avais écrit en étant jeune. Et en fait, de voir petit à petit les personnes autour de moi à qui je faisais lire mon livre, me dire qu'ils aimaient mon histoire, qu'ils se laissaient transporter dans mon univers, ça m'a réconfortée, ça m'a prouvé à moi-même ma force et ça m'a permis de prendre plus confiance en moi. Parfois, mon livre, en fait, il me soulageait pas. Car je pars du principe qu'on écrit un livre avec ses tripes. On y met son corps, on y met son âme, en étant triste, en colère, stressé, surpris, blessé, et tenter d'écrire des mots justes tels qu'ils me viennent alors que je suis dans le même état. Et aujourd'hui, je peux aussi douter par moments de mon écrit car j'ai pas encore publié mon premier roman et on peut vite se comparer sur Instagram. Mais j'ai aussi rencontré de super personnes sur les réseaux qui m'ont aussi aidé à croire en moi et m'ont soutenu en fait. Et j'essaie juste de prendre le positif de chaque situation et me féliciter pour chaque petite victoire. Dans un journal intime, sans surprise, ça m'a fait un bien fou de libérer ce que j'avais en moi. C'était aussi intéressant de voir que tout n'était pas toujours sombre dans ma vie et le fait de repérer en fait ces moments de joie était important pour moi aussi. Je dirais pas forcément que ça m'a soulagée à proprement parler, mais ça m'a aidée à comprendre ce qui me traversait pendant ces périodes compliquées et à avancer. Je pense pas qu'à un moment donné ça ait fait l'effet inverse. Pour moi, j'écrivais que lorsque l'envie me prenait, donc ça m'a toujours apporté que du positif.
Écrire, ça m'a permis de mettre à plat mes émotions. C'est une vraie introspection, puisque on mélange à la fois le regard intérieur et extérieur. On se demande si ça va plaire quand même ce qu'on écrit, si des gens vont le lire, si des gens vont le comprendre. Et donc, évidemment, il y a l'effet inverse qui peut se produire. Comme je le disais, ça m'a soulagée, mais il y a des moments où ça n'a pas été le cas. J'aborde des sujets très difficiles et qui donc nécessite de prendre du recul et des pincettes. Et il y a des moments où intentionnellement je restais dans une bulle de négatif parce que je voulais écrire. Et c'est là où tu te dis que des fois l'écriture peut te mener trop loin et qu'il faut savoir placer des limites, des barrières à tout ça. C'est pas parce que tu vas très bien en ce moment que tu vas pas trouver d'inspi. Et c'est pas parce que tu as envie de trouver de l'inspiration que tu vas nécessairement devoir te souvenir de quelque chose qui t'a rendu triste ou alors qui t'a blessé. Mis à part ça, il y a aussi tout l'enjeu du est-ce que ça va plaire? Tu vois, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais il faut quand même trouver les bons mots, les bonnes formulations pour que ça parle au public. Mais encore une fois, ça peut mener à des prises de tête pas possibles.
Alors au début, quand j'ai commencé à écrire ces pages du matin, c'était très agréable parce que j'avais beaucoup de choses à écrire. C'était quelque chose de nouveau pour moi, donc je découvrais un petit peu ce que ça pouvait faire et voilà, je pouvais raconter plein de choses que j'avais jamais pu écrire avant. Donc en fait, les 3 pages se remplissaient assez vite, mais c'est vite devenu plus complexe parce que j'avais cet objectif des 3 pages chaque matin. Et on dirait pas, mais en fait, ça fait beaucoup. Ça correspond à peu près à 30, 45 minutes devant un carnet tous les matins. Et en fait, au bout de quelques semaines, j'ai commencé un peu à résister, à lutter contre les pages. Et ça m'ennuyait de les écrire, mais je le faisais quand même. Parfois, voilà, j'écrivais un petit peu sur tout, n'importe quoi, ça n'avait aucun sens. Mais au bout de plusieurs semaines, en vrai, j'ai compris qu'il fallait que je prenne plus de liberté par rapport à ces pages-là. Et que je pouvais justement écrire tout ce qui me passait par la tête, que je pouvais écrire les 3 pages en exprimant juste mon ennui face à ces pages, mon envie de pas les écrire. En faisant ça, ça m'a vraiment libéré, je crois. Après, au bout d'un certain temps, c'est devenu une routine. Ça me permettait de commencer la journée avec l'esprit tranquille, l'esprit libre. Et voilà, ça me libérait des pensées un peu brouillonnes du matin et ça me permettait d'y voir plus clair. Et je crois que c'est devenu une sorte de pratique un peu méditative. Parce que j'avais un peu les mêmes sensations de sérénité, même physique, qu'après avoir médité, par exemple.
En fait, après avoir écrit 2 albums, je me suis aperçu d'un truc, c'est que mes personnages et certains trucs de mon histoire, en fait, c'était des parties de moi-même. C'était comme une introspection. À la base, je voulais juste partager des émotions et je me retrouve avec une analyse de moi-même. Et ça aide de ouf. C'est comme une flèche qui dit directement, c'est ça que tu dois travailler ou régler. Ça, vraiment, c'est incroyable. Mais il y a un autre truc que ça apporte aussi, c'est la frustration et la rigueur. En fait, à chaque fois que tu vas créer quelque chose, tu voudras faire mieux après. Et au bout d'un moment, tu atteins tellement un niveau, pas forcément comparé à tout le monde, mais à toi-même qui est élevé, que pour avoir ce niveau à nouveau, il va falloir du temps, de l'inspiration, etc. Et du coup, tu vas passer des heures à faire une musique qui, au final, elle est nulle. Le syndrome de la page blanche, etc. Tous ces genres de choses-là qui, au final, influencent énormément négativement aussi ton travail. Et aussi le fait que tu vas publier quelque chose et personne ne va l'écouter. Tu passes un an à faire un album et tout le monde s'en fout. Alors, au début, c'est dur à avaler, mais au final, tu te rappelles que c'est pour toi que tu as fait tout ça. Et en fait, c'est insignifiant comparé à tout le positif que ça apporte.
Par rapport au journal intime, j'ai des périodes où j'écris beaucoup dans le mien. Et ça m'aide parfois à me sortir de la tête les choses qui me prennent de l'énergie. Ou alors je veux juste laisser une trace de mon passé pour Lilou 2050. Lilou 2050, si tu m'entends, sache que tu as énormément de péripéties amoureuses à lire. Et j'ai d'autres périodes où je n'écris pas du tout dans mon journal intime, ce qui fait qu'il dure depuis le 25 décembre 2016. Mais on s'en fiche. Tant qu'on le fait quand on a envie et qu'on en ressent le besoin, tant que ça nous fait du bien, mettre ses émotions en mots ou en dessin, ça libère l'esprit. Au moins quelques temps. Et vider son esprit dans son art, c'est comme ça qu'on crée de belles choses. Mais à l'inverse, écrire dans mon journal intime ne m'a pas toujours fait du bien. Il y a des périodes où un journal intime peut ressembler à une amitié toxique. On a l'impression qu'on a besoin de tout lui raconter, que parler avec quelqu'un des mauvaises choses qui nous arrivent nous fera du bien et on ne parle que de choses négatives. Ce qui nous plonge encore plus dans notre négativité, encore et encore. Certains passages de journaux intimes ne sont pas très faciles à relire. Ça ne fait pas forcément autant de bien que ce qu'on croyait. Décharger toute notre tristesse et notre colère sur un carnet n'est pas toujours la solution pour aller mieux. Pour ce qui est d'écrire un roman ou un scénario, c'est plus le fait de pouvoir partager des histoires qui me font rêver avec les autres. Quand je lis un livre ou que je regarde un film, je rêve éveillée. Les émotions que je ressens grâce à une histoire bien construite et réfléchie sont merveilleuses. Je n'ai pas de meilleure explication que ça me fait rêver. Et ces émotions sont si belles et si agréables à vivre que je veux à mon tour les transmettre à d'autres au travers de mes histoires, quel que soit le format. Alors, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton travail, s'il te plaît ?
Alors, je m'appelle Tom Rodriguez-Martin, j'ai 24 ans et je suis traducteur de romans de littérature anglais vers français.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche, le contact avec les éditeurs, qu'est-ce qu'ils t'envoient comme document, qu'est-ce que... bref, tout ça.
Donc, une fois le contrat signé, on m'envoie le PDF du roman, en anglais, en version originale. Moi, je préfère quand même bosser avec la version papier. Et donc, on me demande de traduire en restant aussi fidèle que possible au texte original, tout en changeant quand même suffisamment le texte pour que ce soit agréable à lire en français, parce que c'est vraiment pas du tout la même manière de raconter les choses en anglais ou en français.
Quelles sont tes méthodes de travail ?
Alors, je travaille principalement avec Google Docs. D'abord, je lis le roman en entier une première fois sans le traduire, juste histoire d'avoir toute l'histoire dans la tête, parce que des fois, il y a des détails dans le chapitre 1 qu'on comprend que après avoir lu le chapitre 20, voilà, des trucs comme ça. Et puis, je lis le chapitre une seconde fois. Et ensuite, je reviens au début, et là, je me mets à le traduire, en lisant paragraphe par paragraphe, phrase par phrase, ça dépend des fois. Et je traduis tout le chapitre comme ça. Puis ensuite, j'en traduis un deuxième, puis un troisième. Et après, je reviens sur le premier chapitre que j'ai traduit. Et là, je le relis pour voir si j'ai pas fait d'oubli de certaines phrases, certains paragraphe, si j'ai pas fait d'erreur et compagnie. Puis je lis à nouveau le 2 et le 3. Et ensuite je recommence 4, 5, 6, souvent par groupe de 2 ou 3 selon la longueur du chapitre. Une fois que tout ça c'est fini, je repasse une fois complète sur le livre à nouveau pour voir si j'ai pas mal écrit des choses, parce que j'ai beaucoup de mal pour l'instant à diviser mon cerveau en français-anglais. Donc il y a plein de petits mix qui m'ont l'air français à première vue et qui en fait après relecture ça va pas du tout. Et une fois que ça c'est passé, je le relis une toute dernière fois pour voir vraiment, pour me détacher complètement de l'anglais et voir vraiment là où il faut changer des expressions, où il faut raccourcir une phrase, changer un point par une virgule, des trucs comme ça, parce qu'en anglais encore une fois ça passe, en français pas du tout. Et du coup, enfin, une fois que c'est fini, je l'envoie à l'éditeur qui ensuite à son tour le relit et le fait lire à ses correcteurs et compagnie, et là au besoin, selon les situations, me renvoie le document corrigé avec des commentaires en mode pourquoi ça c'est ça, est-ce que ça on changerait pas par ça, et une fois que tout ça c'est terminé, on sort le bouquin.
Quelle est la part de création dans la traduction quand tu dois par exemple changer tout le sens d'une phrase pour que ça fitte?
La part de création, elle est compliquée, disons. C'est-à-dire qu'il faut rester le plus fidèle possible à ce qu'a voulu dire l'auteur. Mais des fois, l'auteur va vouloir faire un jeu de mots qui passe totalement en anglais, mais une fois traduit en français, ne veut plus rien dire. Les noms de certains lieux. Et c'est assez difficile parce que, pareil, c'est très personnel et c'est très attaché à la langue d'origine. Donc ça, c'est au cas par cas. C'est à voir avec aussi l'éditeur, si l'éditeur est d'accord. Soit on laisse le titre original, soit on change. C'est pour ça que c'est bien de pouvoir discuter soit avec l'auteur. Moi, j'échange beaucoup avec l'auteur pour m'assurer que j'ai bien compris que ça, ça veut bien dire ça et ça, ça veut bien dire ça. Par exemple, il y a un village qui en anglais s'appelle Ashfarting, qui est Ash, ça veut dire cendre, donc c'est facile. Farting, ça veut dire sous, centime, penny, un truc comme ça. Et j'aime bien cette part de création là où, par exemple, j'ai choisi cendre sous. Je trouve ça mignon, j'aime beaucoup ce nom-là. Et certains noms de personnages aussi qui ont un sens caché. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est que je suis un peu dans le secret de l'auteur, des fois. Il y a certaines choses que je sais qui sont même pas encore dans les livres, qui sont pour des livres qui sont même pas encore sortis, mais qu'il fallait savoir pour le tome 1 ou le tome 2, pour bien traduire correctement les trucs. Et sinon, encore sur c'est pas vraiment création, mais en même temps un peu, c'est que quand on est traducteur, on est obligatoirement relecteur comme lecteur basique, et je vois beaucoup de faux raccords ou alors des petites erreurs de typographie, des trucs comme ça. Dans ces cas-là, l'auteur me donne la phrase, me dit « oui, ça c'est pour ça, ça t'as raison, je me suis trompé, change plutôt par ça », il me donne des nouvelles phrases pour remplacer la petite erreur ou des trucs comme ça.
La traduction, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Comment tu le vis?
Du coup, ça fait très cliché de dire ça, mais ça me fait un peu de tout, parce que c'est très... Alors, principalement, j'adore ça. Hein. ça me fait... ça me rend complètement dingue, des fois. Mais au final, je suis toujours ravi à la fin. Parce que, par exemple, le plus dur, c'est d'abandonner le côté anglais pour rester bien français, d'oublier que certaines expressions anglaises n'existent pas en français. C'est très difficile de détacher les deux cerveaux, le cerveau anglais et le cerveau français, disons. Très frustrant, oui. Et aussi, sinon, qui est très dur et qui peut être très frustrant, c'est le côté s'autoriser à prendre des libertés. Comme par exemple, en anglais, il y a beaucoup de répétitions et ça passe en anglais vraiment même à la lecture, même pour un français qui parle anglais, c'est bon. Mais en français, par exemple, si je dis Jean entra dans la pièce et s'assit en face de Michel qui le regardait, puis Jean récupéra la carafe et se servit un verre d'eau. En anglais, bizarrement, ça passe, mais en français, voilà, il y a trop de gens et c'est là que c'est Faut oser retirer le deuxième Jean et remplacer un point par une virgule pour dire Jean entra dans la pièce et s'assit en face de Michel qui le regardait, puis attrapa la carafe pour se servir un verre d'eau. Voilà, j'ai beaucoup de mal à motoriser ça, mais globalement, j'aime beaucoup apprendre des secrets de tournage des films, les secrets d'écriture des livres, tout un tas de trucs un peu cachés. J'adore les clins d'œil. Donc quand il y en a et que je suis au courant, j'ai l'impression d'être le créateur. La pire chose, c'est de devoir relire énormément de fois le livre comme j'ai décrit. Mais sinon, au final, tant que l'histoire est bonne et que les personnages sont bien faits, c'est hyper agréable. Je suis comme un lecteur classique. Au final, je m'attache au personnage et je meurs d'envie d'avoir la suite, de savoir ce qui va leur arriver.
Et il y a un attachement en plus de savoir que quand le livre sortira, c'est quand même, en partie, c'est quand même toi qui l'as écrit en français. Donc il y a un attachement encore plus grand avec les personnages et l'histoire parce que tu participes directement à leur diffusion. Je sais pas comment m'exprimer.
Si, c'est ça. C'est sûr que peu importe la qualité du livre, tant que je l'apprécie un minimum, je vais pas être objectif du tout. Largement, les livres que j'ai traduits jusque-là, même si je sais que c'est pas les meilleurs livres du monde, je les aime beaucoup plus que beaucoup d'autres livres qui pourtant, objectivement, seraient mieux écrits ou mieux racontés, des trucs comme ça. Mais évidemment de participer comme ça à la diffusion et à la
vie de l'histoire.
Voilà, à l'écrire en français finalement, parce que voilà, comme la part de création des noms, comme on disait, voilà, c'est pas moi le créateur, mais ça fait quand même toujours plaisir. C'est très agréable, oui.
Merci beaucoup.
Merci à toi, merci beaucoup.
Alors, je m'appelle Sylvie Martin-Rodriguez. J'ai écrit un livre en 2008 dans la collection Les 10 plus gros mensonges aux éditions d'Angle. Et c'était Les 10 plus gros mensonges sur l'école à la maison.
Pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre ?
Pour qu'il y ait un livre sur le sujet écrit par quelqu'un qui vivait l'expérience plutôt que par des gens qui ne connaissent pas le sujet puis qui avaient des préjugés. Donc on faisait l'école à la maison à nos deux enfants et on était harcelés par l'éducation nationale. Donc j'ai voulu parler de comment ça se passe quand on fait l'école à la maison, mais vu de l'intérieur.
Comment tu as construit ce livre ?
La construction, c'est pas moi qui l'ai décidé parce que les 10 plus gros mensonges, c'est une collection où on doit faire 10 chapitres avec 10 mensonges entre guillemets. C'est-à-dire que la collection s'appelle les 10 plus gros mensonges, mais voilà, on aurait pu dire les 10 plus gros préjugés sur l'école à la maison. Et donc, j'ai choisi les 10 préjugés les plus, ceux qu'on nous répète sans arrêt, comme l'école est obligatoire. À l'époque, ça l'était pas. Aujourd'hui, ça l'est, mais à l'époque, ça l'était pas. Les enfants ne sont pas sociabilisés s'ils ne vont pas à l'école. Si on ne va pas à l'école, on ne peut pas apprendre. Enfin, voilà. Donc, c'était déjà construit. Il fallait juste que je développe les préjugés que j'avais choisis.
Et comment tu les as choisis ? Qu'est-ce qui t'a décidé à aborder tel sujet en particulier ?
C'était les sujets qui me tenaient le plus à cœur parce qu'on nous le répétait sans arrêt. Le côté légal par rapport au fait que l'école n'était pas obligatoire, mais on dit tout le temps que l'école est obligatoire. Et aussi le côté où on nous traitait de secte, on nous faisait passer pour des gens qui maltraitent les enfants, qui les enferment, etc.
Quel format t'as utilisé pour écrire le livre parmi les études que t'as dû citer ? Les citations tout court, ce que tu disais toi, etc.
Je donnais mes arguments, en fait, ce que moi je pense, et puis j'étayais avec les études que j'avais trouvées sur le sujet. Je suis allée chercher les études aux États-Unis et en Angleterre, parce que c'est là qu'il y avait le plus d'études sur le sujet. Et avec les textes de loi. Donc voilà, j'avais un chapitre, par exemple, l'enfant n'est pas sociable s'il ne va pas à l'école. Donc je donnais des exemples personnels et puis mes arguments, ce que je pense. Et puis après, j'étayais avec les études et les citations que je pouvais trouver d'écrivains français ou anglais ou américains. Parce que c'était surtout les pays anglophones quand même qui étaient très avancés sur le sujet.
Et comment tu faisais tes recherches pour trouver les études, les citations ?
Il y a plusieurs associations qui avaient déjà des études dans leurs archives. Et sinon, il fallait que j'aille sur Internet. Donc c'était très compliqué parce qu'à l'époque, on n'avait pas la DSL. Il fallait se connecter. On avait droit qu'à 30 heures de connexion par semaine, je crois me rappeler. Et donc, il fallait se connecter. Et il y avait cette espèce de musique, bon, les plus vieux se rappelleront, où ça faisait... Et là, on était connectés et il fallait se dépêcher. Donc, des fois, j'allais à Genève chez une amie à moi qui avait la DSL et je pouvais faire toutes mes recherches toute la journée sans avoir à me connecter et déconnecter sans arrêt, quoi.
Côté édition, comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire? Qu'est-ce qu'on t'a demandé comme format et comme échange avec l'éditeur?
Le format, c'est comme je disais au début, c'était les 10 plus gros mensonges, donc il fallait juste que je m'en tienne à ça. Je crois qu'il m'avait demandé aussi un nombre de mots à ne pas dépasser, ou un nombre de pages à ne pas dépasser, je me souviens plus parce que c'est vieux maintenant. Et ensuite, quand j'ai eu fini, ils m'ont demandé de faire sur Word, voilà, ils m'ont expliqué comment il fallait s'y prendre. J'ai envoyé une première fois, ils ont corrigé, ils m'ont renvoyé le bouquin, je l'ai relu, je l'ai corrigé, je leur ai renvoyé, ils l'ont relu, ils ont encore fait des corrections, ils me l'ont renvoyé et on a fait le ping-pong comme ça pendant un certain temps parce qu'à chaque fois, je trouvais des trucs, puis eux aussi. Et au final, ils faisaient 250 pages. Je connaissais par cœur tellement je l'ai lu et relu. Mais voilà, à la fin, c'est du bon boulot parce qu'on est plusieurs à relire et à trouver les incohérences qu'il peut y avoir des fois quand on est plongé dedans et qu'on n'a pas de recul.
Et quand tu as envoyé la version finale, qu'est-ce qui s'est passé après ?
Il a fallu attendre à peu près un an pour qu'il sorte en librairie. Donc, je l'ai envoyé. Voilà, je me suis sentie comme... ça, j'ai pleuré parce que j'ai mis 9 mois à l'écrire. Et je ne m'attendais pas du tout à ressentir des émotions comme ça. Ça se rapproche du baby blues. J'ai eu 2 enfants et les deux, j'ai eu le baby blues. Et ben pour mon bouquin, ça m'a fait la même chose. Je ne m'y attendais pas du tout. Et ensuite, voilà, il a fallu attendre plusieurs mois pour qu'il sorte en librairie. Puis après... il est sorti.
Tom, notre mère, aime autant son livre que nous. Quand tu l'as eu dans les mains, qu'est-ce que ça t'a fait ?
Alors, ça m'a fait tout bizarre. J'étais très, très, très fière. Et puis, j'étais heureuse parce que tous ces arguments qui me trottaient dans la tête, j'en avais tellement marre d'entendre des bêtises de tous les côtés. Ça m'avait fait du bien, en fait, de résumer le tout et de... Voilà, c'est écrit. Les arguments sont là, on peut s'y référer et ça m'a fait du bien. Même si l'écriture a été compliquée parce que mes enfants étaient tout petits. Donc il fallait qu'on s'organise avec mon mari pour s'occuper des enfants le matin, l'après-midi, pendant que j'écrivais le livre. Ça a été très compliqué de m'organiser dans ma tête parce que je ne suis pas du tout organisée. Mais ensuite, quand il a été fini, ouais, ça, c'était un bonheur.
Bah, du coup, ça fait un peu cet effet d'exorcisme, entre guillemets, qu'on peut ressentir quand on écrit un journal intime. Ou quand on écrit un livre sur des sujets qui nous touchent beaucoup, les mettre sur papier, ça soulage.
Oui, c'est difficile à décrire, mais oui, c'est ça. Ça sort de la tête et c'est écrit et on arrête de ruminer.
Un autre livre un jour ?
Non.
Ok. Merci.
Merci.
Du coup, si j'ai des conseils à partager, ce serait vraiment d'avoir toujours un petit cahier avec soi, toujours une petite prise de notes, parce que voilà, vraiment le truc le plus précieux, c'est les idées. Parce que en fait, une fois que tu as une idée, tu peux la travailler comme tu veux, c'est bon. Mais avoir une idée, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Alors aujourd'hui, voilà, il y a des logiciels, il y a des ChatGPT, il y a des trucs comme ça qui te permettent, je sais pas, t'as pas trop d'inspiration pour pousser une idée, ça peut toujours servir. Mais les idées qui viennent de toi, qui viennent de ce que tu vois, qui viennent de ce que tu ressens, de tes rêves, ben voilà, des trucs qui sont hyper perso, il y a que toi qui peux les avoir. Donc c'est vraiment la matière la plus précieuse. Et donc s'il y a vraiment un conseil que je me permets de donner de ma jeune expérience, c'est vraiment d'écrire toutes les idées, même si elles sont nulles. Faut vraiment les écrire parce que c'est le carburant en fait. Sans idée, tu peux pas écrire de scénario ou de roman, de poème ou je sais pas quoi. Donc voilà pour moi.
Si je devais partager des conseils, je m'adresserais en particulier à toutes les personnes qui ont peur du jugement ou d'exprimer ce qu'elles ressentent. Ne niez pas vos sentiments ou vos besoins. Parfois, pour se sentir mieux, il faut l'extérioriser. Et si l'écriture ne vous convient pas, il y a d'autres solutions comme le sport ou la musique. Mais elle reste une clé pour trouver une issue. Les mots sont importants et précieux. En les assemblant, vous pourrez trouver un sens à votre situation, vos ressentis et tout ce que vous souhaitez exprimer.
Le premier conseil que je peux partager, ce serait de surtout ne pas écouter trop sa petite voix intérieure qui peut douter en fait et avancer coûte que coûte. Ne jamais abandonner ses rêves, surtout quand c'est une passion. La deuxième, ce serait d'essayer le plus possible de ne pas se comparer aux autres, même si dans la société actuelle, c'est plus compliqué à dire qu'à faire, avec les réseaux sociaux et puis aussi avec le système d'éducation française qui pousse tout le temps à se comparer aussi. La troisième, ce serait de surtout ne pas avoir peur de se lancer. N'hésite pas, si tu as envie de le faire, fonce, même si ça paraît fou, insurmontable. Tu verras, avec le temps, les efforts, ils payeront d'eux-mêmes et tes écrits, ils évolueront. T'en ressortiras plus fort. En quatrième, ce serait aussi de se faire confiance. Si ton histoire, elle existe, c'est pas pour rien. C'est qu'elle te parle assez pour la partager. Alors, en fait, doute pas que d'autres pourront être autant transpercés par ton histoire que tu ne l'es déjà. Et cinquièmement, n'hésite pas à échanger autour de toi. Demander conseil. Généralement, les personnes, elles te répondront avec plaisir. Elles t'aideront, elles seront là pour t'encourager, te soutenir à chaque moment, en fait, de tes étapes. Donc, n'hésite pas. Alors, pour moi, un journal intime, c'est quelque chose pour soi. Et je pense qu'il ne faut pas en avoir honte. Ça fait du bien de se rappeler de ces moments de sa vie et de les accepter. Pour moi, ça fait aussi partie du jeu. La deuxième chose, c'est de ne pas avoir peur, parfois, de faire lire son journal intime. Et dernièrement, c'est surtout aussi de ne pas se prendre la tête. C'est un journal intime, c'est pour soi, on se l'approprie, on y met ce qu'on veut dedans et c'est déjà amplement suffisant.
Si je pouvais vous donner un conseil, ce serait évidemment d'écrire tout ce qui vous passe par la tête, de partager votre écriture.
Alors si j'avais des conseils personnellement pour un journal intime, moi de ce que j'ai appris, ce serait de pas se juger justement, d'être libre et d'accepter l'étrangeté de notre cerveau, de notre esprit et voilà, de vraiment se libérer de tout ça pour... En fait, ça fait beaucoup de bien de se sentir libre par rapport à ça. Je pense qu'il y a aussi la routine, le fait d'écrire le plus souvent possible, parce que c'est seulement au bout d'un certain temps qu'on peut comprendre et vraiment ressentir le bien que ça peut faire d'écrire. Voilà.
Comme je l'ai dit dans mon témoignage plus haut, l'inspiration est partout. Donc, regardez autour de vous. Regarder des vidéos d'écriture, c'est inspirant de ouf. Mais attention, les vidéos d'écriture sont géniales, mais tous les conseils ne sont pas bons pour tout le monde. Écoutez-vous, chacun sa propre méthode, chacun son propre mélange de tous les conseils qu'il a entendus. Utilisez les conseils qui vous font vibrer quand vous les entendez. Ne vous forcez pas à suivre tel conseil car telle personne le fait. Seulement ceux qui résonnent en vous. Rien ne remplace une bonne méditation et l'acceptation de ses émotions. C'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, mais ce n'est jamais mauvais de se rappeler qu'on a le droit de ressentir ce que l'on ressent, qu'il est légitime d'aller mal comme d'aller bien, que malgré que nos problèmes ne soient certainement pas les plus graves de la Terre, on a le droit d'être malheureux à cause de petits détails, même si d'autres le sont plus que nous. Bref, comme quoi on peut aussi se perdre dans des choses dont on croit avoir besoin, et qui en général nous soulagent et nous passionnent. Des fois, il faut savoir les mettre de côté pour ne pas s'enfoncer dans un endroit plus sombre que celui où on est déjà. Il faut se rappeler que même si nous n'avions aucune passion, qu'il n'y avait que nous, seuls, on pourrait se satisfaire de ce qu'on est au présent. Drop the mic. On arrive bientôt à la fin de cette longue chronique d'écriture, mais avant de la clôturer, je vais vous partager ce qu'on a pu me dire par écrit. On m'a dit que la BD Lou et les romans Le Journal d'Aurélie Laflamme avaient donné l'envie de tenir un journal intime. On m'a parlé du fait d'avoir arrêté d'écrire en arrivant au collège et des circonstances particulières comme une santé fragile ou un événement marquant qui font prendre conscience du fait qu'on n'a pas de temps à perdre pour faire ce qui nous passionne et nous fait du bien. De la frustration du manque d'assiduité et de la pression de la nécessité d'être régulier. De la culpabilité de ne pas se donner tous les jours à 100% et du soulagement de se défouler sur le papier quand on ne peut pas le faire à voix haute. On m'a parlé de la peur de se juger soi-même plus tard et de se rappeler que c'est pour nous et pour nous seuls qu'on fait ça. Du fait que ça nous permet de ralentir le fil de nos pensées, même si parfois on est submergé par tout ce qu'on voudrait raconter. De la fierté de tenir sur le long terme sa résolution d'écrire plus assidûment. Qu'on peut creuser les sujets plus profondément et aussi longtemps qu'on le veut par écrit. Que ça aide à comprendre des événements passés et qu'on n'a pas de limite de parole sur un sujet en particulier alors qu'on ne pourrait pas forcément en parler de la même manière avec son entourage. On m'a dit que parfois on n'a pas du tout l'impression d'avoir évolué car on écrit toujours sur le même événement, des mois voire des années après. Mais lorsqu'on se relit, on se rend compte qu'à force d'en parler, au fil du temps, notre point de vue sur la question a changé et que même si nous ne sommes pas encore tout à fait guéris, on avance petit à petit. Certaines personnes gardent une trace de leur vécu dans leurs journaux par peur d'oublier, oublier les ressentis et les petits détails qui les faisaient vibrer au moment où ils les vivaient. On m'a dit qu'écrire pouvait signifier s'exorciser soi-même, que de chaque expérience vécue, il ressort quelque chose de fort, et que la poésie peut retranscrire les passions et les souffrances de manière à faire ressortir la beauté même de l'obscurité. Mais qu'il faut faire attention à ne pas se noyer dans une fausse réalité à force de trop essayer de voir le beau de chaque situation. De prendre du recul par rapport à nos émotions pour ne pas se perdre encore plus dans notre mal-être. L'écriture peut nous aider à nous évader mais parfois aussi à nous voiler la face. Cependant, elle est un vrai besoin. Une porte de sortie ou une bulle qui nous protégerait du monde extérieur. On m'a dit que, pour beaucoup de gens, publier ces histoires est un rêve d'enfance qui a tenu dans le temps. Transmettre dans un récit des choses qui nous tiennent à cœur pour soi et pour d'autres qui pourraient vivre ou ressentir les mêmes émotions. On m'a dit que pour commencer un roman, il vaut mieux savoir où l'on veut aller et avoir un plan d'histoire plutôt que de foncer tête baissée et de devoir tout rattraper plus tard. Que pour s'inspirer, Pinterest est un grand allié, qu'on peut s'inspirer de ses voyages et faire des playlists par thème à associer à certaines émotions. De toujours tout noter, ce qui, sait-on jamais, pourra vous servir un jour. On m'a conseillé de ne pas se forcer à revenir tout de suite sur ce qu'on vient d'écrire, mais de s'autoriser à attendre la phase de réécriture pour corriger les incohérences. On m'a aussi parlé d'un truc que je ne connaissais pas du tout. Ce sont les questionnaires sur internet. Si vous avez envie de tenir un journal par exemple, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez chercher des listes de questions sur internet qui vous aideront à vous organiser. Et voilà, on arrive au bout. Ce fut un très très long travail pour moi. Et vraiment, merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'écrire et de m'enregistrer leurs témoignages. Vous avez trop assuré. C'était passionnant d'approfondir ce sujet à ce point et ça m'a beaucoup apporté. Merci à Christelle Dabos d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'était incroyable. On n'oublie pas que son nouveau roman, Nous, sort le 7 novembre chez Gallimard Jeunesse. Merci à Gwendal Chevalier, Théo Lambros, Marine Bisserier, Louane Guiton, Anaë Fumé, Anton Cato, Alan Schaeffer et sur Instagram, xmateo, M-A-T-T-E-O, trait du bas du crabe, Mélina, tiré du bas, C-H-V, story, tiré du bas, du, tiré du bas, monde, tiré du bas, de, tiré du bas, Sunpau, S-U-N-P-A-U, MLT.Pauline avec deux E, à mon frère Tom, tiré du bas, makes, tiré du bas, noise, à ma maman, Sylvie Martin Rodriguez, et à Justine, ma tutrice adorée, pour toute l'aide qu'elle m'apporte tous les jours. Vous écoutez toujours Radio Vassivière sur le 88.6 ou sur radiovassivière.com. Bisous!